Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va encore... Alors, ça parle encore un peu d'IA, mais...
Mais pas de la même IA. On va pas parler de LLM.
Exactement. Ok, détendez-vous. Ça ne parle pas de LLM, ça... Dites-vous que ça n'a rien à voir.
C'est de l'IA de 2012, donc j'ai le droit d'en parler.
Ok.
2012 ?
Bah, machine learning, quoi.
Ouais. Non, mais genre, c'est pas tout frais, tout cuit. Et pourtant, vous allez voir, l'histoire est incroyable. Si je vous dis que l'intelligence artificielle a permis la lecture d'un papyrus enseveli sous un volcan, vous ne croyez sans doute pas, et pourtant, c'est la prouesse qu'ont réussi deux étudiants participant à un challenge à $1 million. Ce qui est en train de se jouer dans les semaines à venir, là, pourrait bien révolutionner l'archéologie pour toujours. Et je pèse mes mots. Mathieu, tu vas nous raconter l'histoire absolument incroyable de Vesuvius Challenge.
Exactement. Et pour vous raconter cette histoire, il faut faire un saut dans le passé, mais vraiment dans le passé, en l'an 79, avec l'éruption du Vésuve, donc ce volcan qui est à côté de Naples, en Italie, et qui ensevelit par 20 mètres de boue chaude et de cendres, notamment Pompéi, et une autre ville juste à côté, Herculanum. Et à Herculanum se trouve une immense villa ayant appartenu au beau-père de Jules César. Et à l'intérieur de cette villa, il y a une grande bibliothèque de papyrus. Évidemment, ça en fait des rouleaux complètement carbonisés par la chaleur des débris volcaniques, mais ils sont en fait plutôt bien préservés. Parce que pendant des siècles et des siècles, tous les textes, les anciens textes, sont exposés à l'air libre, en fait, pendant des siècles, pas forcément ceux de Pompéi et de Herculanum, mais globalement, les papyrus, quand ils sont à l'air, ils se décomposent, ils disparaissent, ils sont détruits. Alors que pendant ce temps, dans cette villa des papyrus, comme on l'appelle, donc cette maison ayant appartenu au beau-père de Jules César, eh ben la bibliothèque de cette villa attend sous terre, intacte, par 20 mètres de cendres et de boue qui a dévalé l'éruption du volcan. Qu'est-ce qu'il y a, Tiffany ? Dis-moi.
Non, mais c'est qu'à chaque fois que tu dis mon nom, ça me... Pardon, t'as dit sous terre.
Alors... Ah mais c'est parce que j'ai vu Tiffany faire comme ça. Et je me suis dit mince.
J'ai mis 10 ans à dire.
Pareil.
Bon. Pardon, il va falloir couper ça.
Sous Tiffany.
Désolée pour l'édition. Mais non, mais quand tu l'as dit, j'étais là. Excuse-moi.
Oui, c'est moi.
Mais ce que je veux dire, c'est que paradoxalement, en fait, cette éruption a préservé une bibliothèque de l'air libre. Et donc, du coup, cette bibliothèque est intacte sous la terre. Ça, c'est en l'an 76. 79 ? 79, en l'an 79. Petit saut dans le temps, enfin, même gros saut dans le temps, en 1750, cette histoire continue. En creusant un puits, rien à voir, mais un agriculteur italien découvre une dalle de marbre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Ça entraîne des fouilles archéologiques et on y découvre des statues, des fresques. Bref, on y découvre la villa du beau-père de Jules César et des centaines de papyrus, tous carbonisés et cendrés. On va voir des images juste après. C'est une découverte absolument incroyable parce que si on parvient à restaurer ces papyrus, on double notre connaissance qu'on a de l'Antiquité. Donc ça fait les archives qu'on a actuellement de l'Antiquité, si on parvient à lire les papyrus qui ont été découverts en 1750 grâce à cet agriculteur, ça fait x2 sur la connaissance de l'Antiquité. Donc c'est absolument incroyable. Problème, en fait, ils sont extrêmement fragiles. Les peu qui essayent de les dérouler... Bah,
ça, c'était un papyrus, là.
Ça, ce que vous avez vu, c'était un papyrus qui a été découvert dans cette villa. Vous allez voir plein d'images de papyrus comme ça, vous allez voir, c'est impressionnant. Oui, On dirait pas un papier.
Non, non.
Je sais à quoi vous pensez.
Tu te dis même pas que c'est du papier.
C'est carbonisé, quoi.
Ouais.
Et sur d'autres photos, on comprend un peu mieux que c'est du papier. Enfin, que c'est un papyrus. Mais voilà, ils sont extrêmement fragiles. Les peu qui essayent de les dérouler, ça finit en poussière,
en lambeau, ouais.
Pour quasiment tout en lambeaux, en poussière. Enfin, on peut plus rien en faire. Il y en a quelques-uns qui sont détruits à cause de ça. Il y a quand même un moine qui en sauve quelques-uns et qui arrive à lire des textes philosophiques écrits en grec de l'époque. Mais c'est vraiment très très peu de papyrus.
Parce que là, ça s'est déroulé.
Ça, ouais. Ça c'est déroulé. C'est des fragments en fait de papyrus. Ouais. Ça ressemble un peu à une écorce.
Ouais.
Et sur certains fragments, on va pouvoir y distinguer des lettres.
Okay.
Que ça, alors souvent en grec, mais certains historiens disent qu'il peut aussi y avoir du latin. Et donc, ça fait qu'il y a plus de 600 papyrus qui n'ont jamais été ouverts et qui sont absolument illisibles parce que on peut rien en faire.
C'est frustrant. Imagine, t'es un chercheur, t'as sous la main
la connaissance,
l'équivalent de toute la connaissance de l'Antiquité. Genre, tu peux révolutionner ton domaine, quoi. Mmh. Et on pourrait découvrir un truc de fou. Genre qu'ils ont vu des aliens, tu vois, ou je sais pas moi.
Exactement.
Tout ça est caché dans ce trésor que tu peux pas dérouler, c'est horrible.
Et pour avoir lu quelques interviews d'historiens, ils sont au premier degré deg. Enfin, ils attendent que le fait qu'on puisse potentiellement les lire. Et ce qui est fou, c'est que là, il y en a 600 qui ont été déterrés, mais en fait, les fouilles, elles se sont un peu arrêtées en chemin. Parce que qu'est-ce que tu veux faire de papyrus complètement carbonisé? Bon, il y a des historiens qui disent qu'ils n'ont pas complètement fini les fouilles en 1750. Et qu'il y en aurait d'autres, si on fouille encore dans la zone, il y en aurait encore potentiellement des milliers d'autres. Ce qui en fait cette villa des papyrus, aujourd'hui, la seule bibliothèque, entre guillemets, intacte de l'Antiquité gréco-romaine.
Détruite intacte.
Détruite intacte. Enfin, et c'est potentiellement les seuls papyrus qu'on peut récupérer de cette période. Et comme tu le disais, il y a des historiens qui attendent d'en savoir plus sur la science, la littérature de l'époque, la philosophie. Enfin, vraiment, ils sont comme des dingues et en même temps, ils sont dingues. Donc, en fait, le défi qui se crée à partir de là, c'est de parvenir à lire ces papyrus, mais sans les ouvrir. Ou en tout cas, sans les ouvrir physiquement. Parce que sinon, on les détruit. Nouveau saut dans le futur, dans le présent. Nouveau saut en 2015 où en fait il y a une sacrée avancée. C'est le professeur Brent Seale de l'université du Kentucky et son équipe. Ils parviennent à lire un rouleau carbonisé, alors pas de l'éruption du Vésuve et de Pompéi, mais qui a été découvert dans un autre endroit à côté de la région de la mer Morte en Israël. C'est un papyrus d'Ein Gedi pour les historiens connaisseurs. Et c'est la première fois que, grâce à des scans, en fait, ils arrivent à lire un rouleau de papyrus carbonisé. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir voir l'image. Et ils découvrent que c'est un texte. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la première fois qu'on a pu lire un papyrus carbonisé.
Mais ils ont fait comment ?
En fait, ils l'ouvrent, mais virtuellement. C'est-à-dire que tu le scannes avec des technologies de scanner, de rayon X.
Ah.
Il le scanne grâce à la tomographie par rayon X. Donc, ils appellent ça en anglais le 3D CT scan. Okay. Et aussi par des techniques de vision par ordinateur, évidemment. Et en fait, ils arrivent à dérouler virtuellement le papyrus. Donc, ce que vous avez vu, c'est un peu le papyrus déroulé.
Okay.
Mais qui n'a pas été déroulé dans la vie.
Mais qui n'a pas été déroulé. Il est déroulé que sur l'ordinateur. Dans la vie, il est complètement intact.
Il avait une forme bizarre, là. Enfin,
oui,
forme
alors,
de M. C'est parce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas pu scanner, c'est ça?
Ouais, ou peut-être parce qu'il était un peu détruit aussi. Ils ne sont pas forcément... Quand je dis intact, c'est intact de l'Antiquité. C'est intact il y a 2000 ans. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il arrive et ils lisent un texte du Lévitique, Gontier... C'est le Lévitique, c'est le troisième des cinq livres de la Torah. Je ne savais guère, je vous aurais appris quelque chose. Mais en tout cas, c'est la première fois, et ça faisait des années que des équipes bossaient sur parvenir à un scan d'un papyrus carbonisé. C'est la première fois que ça arrive, et ça a ouvert la voie, évidemment, à plein d'autres. Donc ça, c'est un papyrus qui se fait scanner, par exemple. Il y a des images absolument incroyables. Donc là, vous vous dites, c'est game.
Non, mais c'est quand même fou de se dire que là...
Ouais.
Enfin,
mais déjà,
on arrive
ça...
à lire dedans.
Ouais.
Alors ça prend, ça se fait pas instantanément, mais
déjà, c'est pas la fin de ton histoire, mais rien que le scan, je trouve ça fou. Juste là, c'est...
À mon avis, là, on croit que là, c'est bon, que
bah,
c'est gagné.
Bah moi, je suis désolé, c'est bon, là.
Non.
Là, on peut lire les 600 papyrus qu'on n'a jamais lus.
Ben non, Mathieu.
En fait, non. Voilà. Parce que ça, c'était écrit avec une encre de métal, si j'ai bien compris. Et donc, ça se voit bien au rayon X. Problème, nos papyrus de la Villa des Papyrus, ils sont faits avec une encre de carbone. Et il y a, ça ne provoque absolument aucun contraste au rayon X, à la technologie qui est utilisée pour scanner les papyrus. Et ça ne marche pas.
Et c'est mort.
Et non. Ils sont absolument dégoûtés.
En fait, ils étaient tristes, hypés, retristes. C'est affreux, cette histoire pour eux.
Écoute, ça va faire que ça et c'est pas fini. Ce qui nous emmène en 2019. Là, on commence à se rapprocher de notre ère. Le professeur Seals, toujours lui, dans son université du Kentucky, a une nouvelle idée, c'est utiliser la lumière infrarouge pour lire certains fragments détachés du papyrus. Donc au lieu d'essayer de scanner les papyrus de la Villa des Papyrus, ils ont récupéré des fragments, on en a vu ce qui ressemblait un peu à des écorces avec des lettres dessus qu'on arrive directement à lire pour le coup. Et ils se disent, ok, on peut scanner ces fragments et en faisant de l'apprentissage automatique, en faisant du machine learning, on va peut-être pouvoir détecter des encres qui nous paraissent actuellement invisibles sur les papyrus qu'on cherche à lire. Et c'est ce qu'il fait. Pour ça, il utilise... Alors, c'est absolument incroyable, en vrai. Il utilise un accélérateur de particules, mais en version miniature, pour obtenir des rayons X de très haute résolution et de très haute énergie. Donc là, il est devant. C'est pour ça que j'ai pas trop... Ça, ils appellent
il
ça
un... un accélérateur de particules.
Ça, honnêtement... Il y a des papiers scientifiques qui en parlent, mais ils appellent ça un accélérateur à particules. J'ai pas... tout bien saisi l'exactitude de ce qu'ils font en termes de physique pour pouvoir
ça
scanner.
A l'air pointu.
Mais en fait, c'est toujours de la tomographie par rayon X, sauf qu'en fait, c'est faut la comprendre que c'est ultra haute définition avec 15 000 fois plus de précision. Ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, évidemment.
Mais même si c'est du carbone, au final.
Attends, j'y viens, ça, on ne sait pas. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas réussi.
Pardon.
Pour l'instant, ils n'ont toujours pas réussi, mais en tout cas, ils se disent, si on augmente la résolution et qu'on compare avec des petits fragments, peut-être qu'on arrivera à faire une IA. On va faire une IA qui permet de lire ces papyrus. Et donc là, ça leur permet, par exemple, d'avoir une résolution de 3 à 8 micromètres. Donc c'est quand même très petit, c'est un bon scan, quoi. Et donc du coup, ils scannent deux rouleaux entiers, qui appartenaient à l'Institut de France, d'ailleurs, qui étaient stockés en France, et plusieurs fragments. Ça, c'est un scan 3D d'un papyrus.
Ok. Voilà.
C'est un scan 3D. C'est...
Oui, en plissant les yeux, on arrive à lire pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Et on arrive enfin à la dernière étape qui va arriver sur notre histoire, qui est encore plus fabuleuse et qui se passe cette année, en 2023. Britt Seals et son équipe parviennent à reconnaître de l'encre dans ces papyrus, sauf qu'ils n'avaient jamais prouvé encore que ces papyrus carbonisés, ils avaient détecté de l'encre. Ils parviennent.
Si ça se trouve, c'est le plus gros prank de l'histoire et en fait, c'est que des pages blanches.
Si ça se trouve, ouais, voilà. Mais ou alors juste qu'il n'y a plus aucune trace, parce qu'on rappelle qu'ils sont carbonisés et qu'en fait, on ne pourra jamais retrouver. Là, ils se sont dit, ok, grâce au modèle qu'ils ont fait de machine learning et ils ont pu comparer avec des lettres existantes. Je ne sais pas si c'est bien clair ma phrase, mais ouais, ça va.
Si.
Ok. Eh ben, ils ont la certitude qu'on peut dérouler virtuellement ces papyrus et qu'il y a de l'encre. Ce qui est très cool. Mais, à l'heure actuelle des choses, ils n'ont toujours absolument lu aucune lettre et aucun mot sur un papyrus de la Villa des Papyrus.
En fait, moi, il y a un truc que je n'ai pas bien compris.
Oui.
Est-ce que tu peux réexpliquer en trois phrases pourquoi c'est possible maintenant grâce à leur modèle d'IA versus avant ? Genre, qu'est-ce que l'IA dans cette histoire a permis de débloquer exactement ?
Alors, pour l'instant, à ce stade de l'histoire, pas grand-chose, mais ce qui a vraiment... permis ça, c'est l'évolution de scan 3D, donc la spécialité notamment du labo de Brent Seals. Ils ont perfectionné leur modèle de scan, ils ont réussi à avoir des scans trop bien, et il a une idée, c'est de scanner aussi, en plus des papyrus, des petits fragments, et de se dire, ok, on va maintenant, on est capable de faire du machine learning en 2023, ouais, je vais créer un petit modèle et essayer de trouver des traces de ces fragments dans les deux papyrus que j'ai scannés grâce à ma technologie de scanner absolument incroyable de 3D CT scan.
Ah oui, ok, donc il a fait un genre de modèle d'IA préliminaire.
Voilà, exactement.
Qui sert juste à prouver qu'en théorie, il devrait y avoir du texte.
Et le résultat, c'est, en théorie, il y a de l'encre. C'est même pas, il y a du texte, c'est, il y a de l'encre.
Ok.
Là, actuellement, on en est à ce stade-là. Et c'est là qu'entre un nouveau protagoniste. Pour l'instant, on y avait principalement le directeur du labo. Il s'appelle Nat Friedman. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, ça ne vous parle pas. C'est un développeur et un investisseur assez influent dans le monde de la tech. Il a été notamment CEO de GitHub juste après le rachat par Microsoft de 2018 à 2021. Et puis, il a fondé plusieurs boîtes tech. Voilà, il a travaillé pour Microsoft. Enfin, c'est quelqu'un sur Twitter qui est assez suivi et qui parle d'IA. Je sais qu'il a notamment investi dans Eleven Labs, par exemple. Enfin, ça, c'est devenu un peu un fonds d'investissement à lui tout seul. Et il voit ça. Il est en contact du coup avec Brent Seals et il se dit, je vais organiser un challenge pour faire avancer cette histoire beaucoup plus vite que si vous continuez votre petit labo là à essayer de lire vos papyrus. Et donc, il crée The Vesuvius Challenge pour accélérer la recherche et à faire appel à toute la communauté de l'IA friand de challenge et de trouver des résultats incroyables. À la clé, $1 million de récompenses répartis en plusieurs catégories, notamment apportées par Nat Friedman, mais il y a aussi d'autres investisseurs qui
stylé, la pub est trop bien.
Ouais.
Et le site, genre, t'as vraiment envie de participer. Ouais. Et tout est super bien expliqué. Honnêtement, si vous voulez creuser, il y a des, vous pouvez aller lire tout ça.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, exactement?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils fournissent toutes les données que Brent Seals il avait de son côté. Et il y a deux objectifs. Premier challenge, déchiffrer 10 lettres sur un des deux papyrus dans une zone de 4 cm carrés.
Ok.
Et ça, je crois qu'il y a $50,000 à la clé, ou 60 000, ou quelque chose comme ça. Deuxième, et ça c'est le gros challenge, et vous allez voir que je ne vous le dis pas tout de suite, c'est pour gagner $700,000, il faut déchiffrer 4 paragraphes de 144 lettres, donc ça fait 560 lettres en tous, dans les deux papyrus scannés. On rappelle qu'à ce moment-là, quand on lance le challenge, absolument aucune lettre n'a pu être lue dans un de ces deux papyrus qu'ils ont scannés par l'équipe de Brent Seals.
Alors, mais tu sais quoi? Ce qui, moi, me paraît bizarre, c'est qu'on dirait que c'est pas beaucoup. Genre, quelques paragraphes. Tu nous as parlé de centaines de parchemins, un truc comme ça. Là, c'est juste quelques paragraphes pour gagner 700 000 balles.
Mais c'est si tu y arrives déjà à détecter une lettre.
Ouais.
En fait, derrière, tu te fais un modèle d'IA et tu les,
ouais.
et tu les as
en
tous.
Fait, lui, il voulait un POC qui pouvait bien répliquer sûr. Sur donc, toute la data. Quoi.
Okay, donc, c'est la preuve, en fait, que ça marche.
Ouais.
Bah, pour l'instant, on sait pas. C'est est-ce que vous allez y arriver, quoi.
C'est réussir quelques paragraphes, en gros, ça veut dire qu'après, c'est bon, quoi.
Est-ce que tu veux que je te montre que c'est compliqué?
Oui.
Regardez cette image.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Est-ce que vous voyez quelque chose?
Ça, c'est le résultat d'un scan ultra haute définition.
C'est un scan dans un endroit du papyrus. Est-ce que vous voyez quelque chose?
Il y a une genre de forme qui ressemble à un S vite fait là. Je sais pas si vous voyez dans un petit S là. Genre au milieu, en haut à gauche.
Ok.
Vite fait.
Là, de cette image, si tu voulais voir une lettre d'un papyrus, il fallait voir ça.
D'accord, oui. Ben
voilà. C'est pour vous dire qu'on est quand même sur des niveaux. Ça, c'est du carbone. Hein. Vraiment, c'est du truc carbonisé qui a été scanné en 3D. Quoi.
Ah, ouais. Il fallait dézoomer. Nous, on était en train de chercher un paragraphe, non?
Mais c'est juste que tu n'as jamais pu le voir. Ouais. Globalement, ça, c'est un des premiers gars qui a travaillé dessus. Et c'est d'ailleurs la première preuve directe de la présence d'encre dans un parchemin grâce à ce challenge.
Okay.
Okay.
C'est quelqu'un qui l'a apporté. C'est quelqu'un comme vous et moi qui a participé au challenge, qui s'appelle Kazay Anmer et qui a gagné $10,000 pour cette découverte. Et surtout, en fait, tout le travail qu'il a accompli, parce que tout ça, le but, c'est que tout le monde met tout open source et chacun peut réutiliser le travail des uns et des autres.
Bah, oui. Okay.
Si vous voulez en savoir plus à la fin, c'est super malin, mais tu vas voir que tout est incroyable dans cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, honnêtement, il a fait un billet de blog. Mais alors, c'est technique as fuck, hein. Mais si vous êtes à fond.
Ça veut dire qu'il mérite ses 10 000 balles.
Il mérite tellement ses 10 000 balles. Le travail qu'il a fait, ce mec, est absolument incroyable. Mais ça n'était pas exactement le challenge demandé. C'était d'avoir 10 lettres sur 4 cm carrés. Il y a quelques semaines, le 12 octobre dernier, nous avons eu un grand gagnant annoncé pour ce premier challenge. C'est Nat Friedman qui l'a annoncé dans un tweet. Voilà, exactement, c'est son tweet. Et le gagnant, c'est Luc Faritor, étudiant de 21 ans en stage chez SpaceX, qui empoche $40,000 pour avoir déchiffré ce premier mot que vous voyez à l'écran. C'est le mot « pourpre ». Voilà. Il a gagné $40,000 pour avoir...
Ça nous avance bien.
Sur un papyrus absolument carbonisé.
Ah non, mais du coup, par contre, l'image qu'il y avait, on les voyait à peu près les lettres.
Alors ça, c'est parce que du coup...
Après processing.
C'est après, et même après vérification par des... papyrussologue, je crois qu'on dit. Enfin, des gens qui s'y connaissent.
Oui, c'est une image qui est retouchée, si tu veux.
Tu soumets ta proposition, c'est traité. Mais potentiellement, tu vas voir des images où c'est pas traité. Ça, c'est vraiment, on a vu le mot pourpre. Et les historiens étaient là en mode, c'est très étrange qu'on ait le mot pourpre, parce que c'est pas un mot qui est fréquent à l'époque. De trouver ce mot. Donc ils se sont emballés très vite. Le mot pourpre.
J'ai trop les becs contents d'avoir le mot pourpre.
Non, mais c'est un domaine que je ne connais pas, mais...
Et la deuxième info marrante, c'est que les stagiaires de SpaceX, on pouvait s'y attendre, mais visiblement, ils ont des gros cerveaux. Voilà.
Ils c'est travaillaient sur une des bases, d'ailleurs.
C'est drôle que ce soit un stagiaire, c'est ça que je veux dire.
21 ans, le mec. Hein. Non, mais c'est... Alors que vraiment, le challenge est accessible à tout le monde.
Si tu te dirais, il n'a pas le temps. Mais en fait, si. En plus de tout le reste.
Peu de temps après ce premier vainqueur, il y a eu un second candidat qui a découvert, avec une note technique, et un peu dans la même zone du papyrus d'ailleurs, deux autres mots. Donc c'est les mots réalisé et similaire. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais voilà. Donc ça, c'est par exemple, là, c'est pas processé. Et lui, c'est l'image, enfin, c'est pas processé. Il n'y a pas eu des rajouts. Évidemment que c'est processé pour arriver à ce stade. Il y a énormément de computer vision, etc., et d'algorithmes qui passent dessus pour qui traitent le contraste, etc. Ça, c'est l'image la plus claire qu'on ait d'un papyrus. Et donc, pour ça, il a gagné un petit quelque chose. Il a gagné 10 000 dollars également, parce qu'en gros, c'est le deuxième gagnant de ce prix, le First Letters Papyrus.
Parce qu'il a fait une belle image. Quoi.
Il a deux mots supplémentaires, c'est pas les mêmes, et il a une image beaucoup plus claire que celle de Lucas.
J'ai une autre question, mais je sais pas si tu pourras répondre. En fait, à chaque fois, ce qu'on voit, le rouleau, donc j'imagine qu'il est enroulé, on voit que la feuille extérieure, ils arrivent à lire le texte que de la... Tu vois ce que je veux dire?
Non.
De l'extérieur
ça, c'est pas eux qui le font, mais en fait, c'est qu'ils ont... Ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à vraiment aplatir.
Ils arrivent à dérouler virtuellement.
À dérouler virtuellement le papyrus. Okay,
je comprends pas exactement comment
ça marche. C'est de la 3D. Mais c'est incroyable.
Mais c'est vrai que quand tu y penses, ça veut dire que, mettons, t'as ton rayon là qui vient faire sa mesure.
Tu vois plusieurs couches, quoi.
Tu traverses peut-être 1000 couches de papier, en fait. Ouais.
Si j'ai bien compris, c'est via des procédés d'image multispectrale. Ils jouent en fait sur les longueurs d'onde. Ça, c'est de la physique pure et dure, pour le coup. Mais il y a un papier de recherche qui en reparle très bien. C'est lui, exactement.
En gros, Big Brain arrive à faire ça.
Ouais.
Non, mais ça, on me rappelle que c'était il y a 2000 ans, qu'ils ont été découverts en 1750, et qu'à l'heure actuelle, aucun de ces papyrus n'a été lu, hein, alors qu'il y en a 600. Hein. Donc, c'est vraiment un problème méga complexe.
Ouais.
Mais globalement, c'est via des techniques comme ça.
Okay. Okay.
Ce deuxième gagnant, donc qui a réussi à avoir l'image la plus claire, il s'appelle Youssef Nader, il a 27 ans, il est égyptien, il est en thèse en machine learning à l'université de Berlin, et il m'a accordé quelques minutes de son temps, j'ai pu lui poser quelques questions.
Ouais, ça, franchement,
c'est cool.
C'est la cerise sur le gâteau, ça.
Il connaissait Underscore ?
Non, il est égyptien,
ouais,
et il vit en Allemagne.
Why not? Okay.
Calme-toi. T'as cru qu'on était connus à
J'adore Tiffany, notamment.
Ah non, non.
Il a dit, oh, Tiffany Twitter, yes.
Yeah, of course.
I know. AWS, ouais.
Ça, oui, pour le coup. Ouais. Oui, t'as dit AWS.
Non, mais genre, elle travaille pour AWS. Bref. Il essaye de me ridiculiser. Je lui ai demandé, du coup, qu'est-ce qui l'a motivé, tout simplement, à participer à ce challenge. On l'écoute.
Just an interesting problem to solve from the technical point of view. You had the data that should contain this ancient text, but it's very hard to get and it's very hard to make visible. And I just in general really enjoy a hard challenge. So I thought it was interesting enough. There are like other interesting factors, of course, in the challenge. Like there's this ridiculous prize, the grand prize, $700,000. There is like the historical aspect of like resurrecting ancient texts from the Roman Empire, and yeah, like as an Egyptian, like the word like papyrus is just always clicks, you know.
Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il est tombé dessus sur Kaggle, qui est un site qui permet de faire des challenges de machine learning et de data science.
Je connaissais pas.
C'est un peu le RootMe, mais de la data science.
D'accord. C'est là où Kaggle. Tu peux avoir plein de datasets aussi.
Tu peux avoir plein de datasets, mais il y a aussi un petit côté fun, challenge et tout. Et voilà, il était à ce moment-là en master où il avait commencé sa thèse, je sais plus, bref. Et c'était en mars, enfin février-mars, il tombe dessus, voilà exactement. Et en fait, il l'avait publié sur cette plateforme, forcément, parce que c'est la plateforme qui fait référence pour ce genre de choses. Et au début, il se dit qu'il n'a pas trop de temps. Voilà, il laisse dans un coin. Et puis, il y revient à l'été. Et à l'été, il commence à poncer le truc, à voir ce que les autres ont fait. Donc, notamment le monsieur qui a trouvé la lettre, là, la lettre bizarre qui ressemble à un N. Et donc, en fait, il y va à fond. Et il commence à mettre en place un apprentissage pour pouvoir lire des papyrus.
Je trouve ça, on s'en fout, mais je trouve ça marrant qu'il soit égyptien.
Je sais pas comment dire, mais... Et du coup, c'est un peu, il a vu le mot papyrus comme il dit, il fait bah du coup, forcément, je suis égyptien, j'ai vu. Alors que ça n'a rien à voir, il fait bon, tiens, ça a l'air rigolo ce challenge. Et puis aussi parce que le cash prize, c'est du jamais vu. Il y a quand même $1 million à la clé.
Ouais, ouais.
C'est énorme. Et du coup, il s'y est mis, et du coup, je lui ai demandé un peu. J'ai perdu mes notes, mais je lui ai demandé un peu comment il s'y était pris et de nous expliquer un peu qu'il a.
Sa strat pour gagner 700 000 balles.
Sa strat pour gagner 700 000 balles. On l'écoute.
Try to have the model learn any of the features of the images of the 3D images alone by, trying to match different rotated images and like these sort of contrastive learning tasks of, okay, are these two images the same or not, stuff like that. And this helped the model a little bit. Adapt to the different types of images, but it was still not enough. And then around maybe start of September, I started to see a small like number of letters that is showing up very faintly. Mm-hmm. So I took these like few letters. I decided to create like a ground truth on top of it and say, okay, this is actually letters. I was not entirely sure if these are letters or not, but I thought it couldn't harm the model. It already thinks they're letters, so just like make it more confident. And I give the model this output, and I said, okay, these are letters. Try to find like other similar letters, and this picked up really well. And the model was able to see a lot more letters, and like the segment lit up. And then I decided to do this multiple times. So I took these letters that the model found. And I drew another like label map on top of it. And I said, okay, all of these are now letters. Try to find similar letters in other segments. And it took a little bit of debugging and a little bit of trying to know when the model is overfitting. So it's at one point it starts to memorize because it's a very small amount of data. It just starts to memorize. Okay, you think this is a letter, I will output this. And I had like a few tricks to make the model not overfit, or at least like have it learn something before it overfit to separate these two stages. And eventually the model was able to see letters on segments it hadn't seen before. And from there, I got to the 10 letters by doing this like repetitively. So.
J'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris, mais je t'ai vu acquiescer.
Ouais.
Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce qu'il a dit?
Moi, ce que j'ai compris, c'est que du coup, en fait, il a fait une espèce de feedback loop positive à chaque fois que le modèle détectait ce qui semblait être, apparemment, c'était incertain au début des lettres. Il les labellisait et puis il les remettait dans le training set en disant, on va augmenter la confiance du modèle sur le fait que ce soit une lettre. Et en fait, il l'a refait plusieurs fois. Et du coup, en fait, normalement, c'est pas forcément une très bonne façon de faire les choses, parce que parfois, tu peux confirmer une erreur. Mais là, comme il s'est dit qu'il n'avait pas beaucoup de datasets d'entraînement et que c'était un challenge, il s'est dit, la petite intuition que le modèle a, je vais l'amplifier à mort, même si c'est une erreur, au risque que ce soit une erreur qui l'amplifie. Et en fait, au final, il a quand même trouvé des lettres comme ça, donc c'est assez cool, quoi.
En fait, il a parié que ça partait dans la bonne direction.
Que ça partait dans la bonne direction, et il a à chaque fois, il a dit qu'il a fait plusieurs itérations comme ça d'entraînement, où à chaque fois il relabellisait les nouvelles lettres que le modèle détectait, et après il le réentraînait là-dessus. Donc c'est assez cool.
Stylé.
Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Franchement, t'as tout dit. En fait, il a commencé par un pré-entraînement auto-supervisé.
Ouais.
Et après, voilà, il étiquetait, il labellisait un petit peu les données qu'il avait en faisant des paris.
Il enrichissait. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il enrichissait le dataset d'entraînement avec ce qui avait été trouvé précédemment. au risque de d'induire le modèle en erreur, mais c'est pas ce qui a été le cas, du coup. C'est très cool.
Et ce qui est très cool, c'est que par rapport au premier qui a gagné les 40 000 dollars, lui, c'était un peu plus... Je vais pas rentrer dans le détail, mais à la mano. C'est vraiment un peu comme s'il cherchait les lettres...
Il a eu plus un coup de bol, peut-être, le premier.
Coup de bol, je sais pas, mais... en vrai, c'est vrai que je l'ai pas l'interrogé exactement. Mais en tout cas, c'est un peu plus de la computer vision que de l'apprentissage.
Et ouais. Donc, c'est plus dur à répliquer.
Exactement. En tout cas, moi, de ma compréhension du problème, je parierais potentiellement plus sur Youssef que sur Lucas pour la suite. Parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu plus dur à répliquer. Et donc, voilà. En tout cas, les deux, voire les trois qui ont été récompensés, c'est vraiment des monstres.
Parce que là, du coup, si j'ai bien compris, la conclusion, c'est que avec tout cet entraînement-là, à chaque fois, il a amélioré son modèle pour qu'il arrive à de mieux en mieux généraliser la détection de lettres. Mm. Du coup, là, a priori, son modèle permet certes de trouver son paragraphe, mais il pourrait continuer à lire tout le bouquin, en fait.
Et justement, il y a quelques semaines, il y a une nouvelle image qui a été publiée. J'ai sauté deux images. Ouais, tu peux les montrer, c'est des images des papyrus. Voilà, exactement. On voit quatre colonnes distinctes. Oh. Ça, c'est une image de Youssef qu'on vient de voir en interview.
Wow.
C'est une nouvelle image de Youssef.
Ça, il y a du progrès là.
Du progrès de fou. On rappelle qu'on est sur un papyrus calciné quand même. Ouais. Donc c'est fou d'avoir ce genre d'image. Moi, ça m'impressionne. Voilà, on rappelle qu'on est sur ça. Une serpillière.
Ça, c'est le même papyrus roulé. Et ouais. La photo qu'on a vue juste avant, c'était l'analyse...
Je sais pas si c'est les mêmes.
Mais
c'est un des papyrus.
Okay. Et du coup, il y avait des colonnes.
Il y avait
depuis le début.
Depuis le début, il y avait des colonnes, ce qu'on ne savait pas. Ça, c'est ce que Youssef a réussi à envoyer à l'équipe. Donc, c'est la dernière image qu'on a, en tout cas publiquement. Et du coup, à votre avis, est-ce qu'il essaye de poursuivre pour gagner les 700 000 balles?
Bah oui.
Bah, j'imagine.
Bon, je lui ai
demandé. Il est si pris.
Je lui ai demandé.
Yeah, for sure. It was really hard to quit when I couldn't see letters, and now that I see a lot of letters, it's really hard to quit. So I will be working until the end of the year, hopefully, to see if I can push this to the grand prize.
Trop
il est addict. Globalement, là, il m'a accordé une interview, mais il est addict. Il cherche que à avoir ses paragraphes. Ouais.
Mais du coup, ce qu'il a fait déjà, il l'a mis en open source.
Oui, alors.
Donc les gens, en fait, là, c'est la course pour avoir les 700 000
balles. C'est la course.
Balles.
C'est d'autant plus la course que, en fait, ce prix de 700 000 dollars pour lire ces quatre paragraphes court jusqu'au 31 décembre. Donc là, bon, on enregistre, on est
il
le 6
est gentil
décembre.
D'avoir partagé en vrai. Parce que...
Mais en fait, il me semble que c'est un peu dans les... En fait, t'es obligé pour soumettre et avoir les papiers. Alors oui, les colonnes, j'ai pas exactement compris dans quel cadre il avait fait. Est-ce que c'était pour corroborer sa découverte précédente? Mais globalement, tout le monde publie un peu tout ce qu'il fait. Alors, pas forcément dans les mêmes timings. Parfois, tu veux garder une avance, donc tu le publies un peu en retard.
Est-ce que le chat est toujours là ou tout le monde s'est barré pour bosser dessus?
Mais globalement, il s'est documenté de fou. C'est un puits de connaissances. Tout est sur GitHub. Vous allez sur le GitHub de Youssef. Ce que je vous ai raconté, vous le trouvez. Vous trouvez son entraînement, etc. Tout ce qu'il a fait, son approche.
Génial.
Sur le site, tout est répertorié, donc sur le site du challenge. Et voilà, merci beaucoup à lui d'avoir répondu à mes questions. Et vous pouvez aller le suivre sur Twitter, il va pas comprendre d'où ça vient, il sait qu'il passe dans l'émission mais il sait pas quand. Allez le suivre sur Twitter, ça lui donnera de la force. Et moi j'ai envie de mettre une petite pièce
sur lui.
J'adorerais que tant qu'on l'a eu dans l'émission, je me suis attaché, tu vois. Et j'adorerais que il aille au bout de
ce serait cool que ce soit lui qui aille au bout quoi.
Ah ça serait incroyable.
Trop stylé, trop fort.
Trop fort. Non mais c'est eux, ils sont trop forts.
Ouais. Trop forts.
Et du coup le texte, ils l'ont traduit. Le texte qu'il a réussi, il dit que ça parle de quoi?
Ah, je crois qu'ils l'ont pas encore lu.
Ah, ok.
Il me semble.
Parce que c'est quand même le moins dur dans l'histoire, je crois.
oui, mais alors, en fait, souvent c'est pas eux qui font la traduction. Hein.
Oui,
bien
sûr.
En plus d'être des experts d'IA, et ce sont pas des experts
en gros,
du grec.
Eux, ils envoient l'image, et derrière, t'as des experts du grec ou du latin.
Ouais, parce que
qui lisent les papyrus.
Ça avait l'air lisible.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je ne sais pas lire. Mais en vrai, peut-être si tu vas sur le site internet, c'est peut-être une info que j'ai manqué, honnêtement. Mm. Mais
trop cool.
Mais voilà. Et en fait, il y a eu beaucoup de communication au niveau quand le premier challenge, ils ont versé l'argent aux trois gagnants. Donc ils ont dit que ça voulait dire pourpre. Ouais, dis-moi.
Oh, j'en ai marre du chat.
Pourquoi?
C'est une recette de kebab. Bah, mais oui, bah bien sûr.
c'est la recette de kebab la plus chère de l'histoire.
Ah ouais.
Ah, c'est clair.
Mais tu sais que.
Tout ça pour ça.
Je disais, mais j'ai lu des interviews d'historiens qui sont vraiment dans l'histoire. Il y a des textes dont on sait qu'on a perdu, mais qu'on sait qu'ils existent.
Ah oui.
Et donc, moi, j'ai lu des interviews de quelqu'un, pareil. Il aimerait bien lire le traité que Marc-Antoine a publié. Je sais pas ce que c'est, mais quand il le dit, c'est j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir le lire. C'est un de mes rêves. Et quand je lis des interviews d'historiens qui disent ça, qui disent c'est potentiellement possible dans quelques mois, là.
J'espère pour lui qu'il va pouvoir lire son traité.
Et les poèmes de Sapho.
Mais moi, voilà. Effectivement, moi, j'avais déjà entendu que. Tu prends les tragédies grecques, par exemple, en fait, on a.
Mais oui.
Je sais pas quelle est la fraction, mais c'est 1%. On a quasiment rien, malgré le fait qu'on sait que le dépôt était gigantesque.
Et ce qui est fou, c'est
qu'on ne sait rien, en fait.
Tout ça, c'est grâce à des recherches d'un labo, des étudiants qui travaillent collaborativement en ligne sur Kaggle, d'un investisseur qui a mis des sous pour en créer un challenge. Enfin, je trouve l'histoire trop belle.
C'est très cool, ouais.
Et incroyable. C'était pas prévu, ça. Merci, Thiel.
Le petit mème de la régie qui nous met bien.
Très sympa.
Je rends à César ce qui était à César, c'est dans le billet de blog Link.
De Kaizen. Oui, exact. Oui, bah, je me disais bien que je l'avais lu. Et ce billet de blog, d'ailleurs, si vraiment vous voulez en savoir plus sur les techniques, le big blog, je l'ai pas envoyé au modérateur. Tapez Kaizen under
reading.
Ah ben c'est ça.
Scrolls,
voilà exact. Ce billet de blog de 15 mecs de long.
Et vous trouverez.
Et là vous vous endormez avec.
Trop bien. Merci vraiment. C'était.
Merci beaucoup. C'était très cool.
Trop cool.
Ouais.
Bah,
je
veux dire,
je pense que c'était une de mes chroniques préférées.
Et ben c'est grâce aux gens qui ont mis ça en place.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.